Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 de mon podcast Autour du chien, le rendez-vous canin pour bien comprendre votre chien. J'espère que vous allez bien. Je vais vous partager quelques conseils toutous et quelques idées reçues. Bonne écoute!
On va parler un petit peu des récompenses. Alors, lorsque vous voulez récompenser votre chien afin qu'il progresse, il est important de bien choisir la récompense. Assurez-vous de bien choisir la récompense. Alors, bien choisir la récompense, c'est quoi? C'est choisir la récompense qui plaît à votre chien. C'est pas vous qui la décidez. Par exemple, si vous décidez que la récompense en entraînement, en apprentissage, va être un jouet, alors que votre chien préfère la nourriture, ça va être compliqué. Donc, si vous ne choisissez pas la récompense qui plaît vraiment à votre chien, celle-ci n'aura pas de valeur et ne pourra pas renforcer le comportement. Donc, cela ne pourra pas vous aider lors de vos séances d'entraînement, cela ne pourra pas vous aider pour vos apprentissages. Par exemple, si vous m'invitez à manger et que vous me faites des brocolis, bon, ben moi, je suis pas très fan des brocolis, je préfère les pizzas. Voilà, je vais pas tellement avoir envie de revenir déjeuner avec vous. Alors, comment bien rafraîchir votre chien durant ces journées de grande chaleur quand vous êtes en voiture avec lui? Comment aider votre chien à faire face à ces fortes températures quand vous voyagez en voiture? Alors, la plupart des personnes aujourd'hui ont une voiture avec la clim, mais toutes les voitures n'ont pas la clim de la même qualité. Il y a des clims qui vont dans tout l'habitacle, il y a des clims qui sont juste devant. Voilà, en tout cas comme la mienne, moi j'ai une vieille voiture, j'ai de la clim, mais ça diffuse pas bien partout. Alors, je vais vous partager trois conseils qui peuvent vous aider à voyager avec votre chien, à faire voyager votre chien en voiture lors de journées comme aujourd'hui. Où sont annoncées donc des journées chaudes, des températures chaudes. Alors d'abord, vous pourriez peut-être, ou vous avez peut-être, un tapis rafraîchissant qui peut s'utiliser aussi à l'intérieur de la maison, mais vous pouvez aussi le mettre dans la voiture, là où est installé votre chien, s'il est sur l'arrière de la voiture, partie haillon, ou s'il est sur la banquette arrière. Voilà, vous pouvez lui mettre son tapis rafraîchissant. S'il n'est pas à l'aise d'être directement sur le tapis rafraîchissant, on peut mettre une serviette éponge, hein, une serviette de toilette sur le tapis rafraîchissant. Ça peut être plus confortable et certains chiens vont plus l'apprécier comme ça. Sinon, ça peut être d'utiliser des serviettes mouillées, donc là où est installé le chien, encore une fois, partie arrière de la voiture, si vous l'avez au niveau du haillon, ou sur une banquette arrière, sur la banquette arrière, ou peut-être dans sa cage de transport. Donc voilà, des serviettes mouillées, ça peut être aussi des serviettes mouillées avec de l'eau fraîche, bien évidemment, ça peut être aussi une bonne solution. Des bouteilles d'eau, de l'eau glacée ou de l'eau congelée, des bouteilles qui sont passées au congélateur, donc des bouteilles d'eau glacée que vous allez pouvoir aussi installer à côté de l'emplacement de votre chien dans votre voiture. Pas directement comme ça, mais pareil, entouré d'une serviette de toilette. Et ça peut aider aussi à bien rafraîchir l'emplacement du chien, le coin que votre chien a choisi pour être dans votre voiture ou l'emplacement que vous avez choisi pour lui quand vous roulez en voiture avec lui. Voilà, trois petits conseils qui, j'espère, vont vous aider encore à passer ces journées bien bien chaudes avec votre chien et afin de voyager avec lui dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vais vous partager six conseils pour aider votre chien durant ces journées, très chaudes, durant cette période de chaleur, voire peut-être de canicule. Alors, d'abord de l'eau fraîche partout chez vous, à l'intérieur, là où il fait frais, fenêtres fermées, hein. Moi j'ai fermé les fenêtres, là, les rideaux, les volets sont tirés aussi un petit peu pour essayer de faire un maximum d'ombre, et donc de l'eau fraîche changée très régulièrement. Ensuite, pour les balades du chien, ça va être tôt le matin, ou tard le soir, et on fait attention aussi bien sûr à la chaleur du bitume si vous êtes en ville. Mais donc privilégiez ces deux moments-là de la journée, tôt le matin et tard le soir. Ensuite, troisième conseil, réduire les jeux actifs. On va garder des jeux calmes, on va faire des jeux calmes, des jeux stimulants, où on fait pas de jeux, on en fait moins. On peut faire du flair, mais on peut faire aussi des petits exercices, réviser certains petits exercices d'écoute, voilà, hyper faciles et qui vont pas trop demander de mouvements du chien. Hein, voilà, on va essayer de privilégier des mouvements calmes et donc rien d'actif, rien d'agité. On va opter aussi pour des moments de relaxation. Ça peut être le moment de faire du massage, ça peut être le moment de faire de la relaxation en duo, de faire de la relaxation à deux, je vais y arriver. Voilà, on va privilégier des petits moments comme ça de calme, de repos où on se pose. Si on peut, on prévoit aussi des ventilateurs ou des moments de baignade. Voilà, si vous avez près de chez vous un plan d'eau, ça peut être l'occasion d'aller faire baigner les chiens. Encore une fois, pas en plein milieu d'après-midi quand il fait super chaud. Et sinon, ça peut être de mettre un ventilateur aussi à l'intérieur de la maison, dans la pièce où se trouve le chien. Et bien sûr, pour les promenades, hein, éviter le bitume, éviter le goudron tant que possible. Et privilégier l'herbe, privilégier la terre pour promener les chiens, parce que le goudron très chaud, eh bien, ça brûle les pattes. Cet après-midi, j'étais près d'une personne qui avait son chien en laisse. On était en ville, on était à l'arrêt, au bord de, enfin, sur le trottoir, avant de traverser. On était en train d'attendre et la personne avait donc son chien à côté d'elle. Et puis, le chien commence à avancer pour tirer, pour descendre sur la chaussée. Donc, la personne le retient et la personne prononce son prénom, Roxy. Voilà. Et la personne lui dit « Roxy ». Ok. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que le prénom du chien, ça veut rien dire. Ça donne pas d'indication. Le chien, il sait. Ce chien-là, il savait qu'il s'appelait Roxy. Voilà. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'entends trop souvent des gens utiliser le prénom du chien pour donner une indication. Si le chien tire, quand ils sont à l'arrêt ou quand ils sont en mouvement, si le chien va toucher à quelque chose au sol, alors au lieu de dire « tu laisses » ou « laisse tomber », voilà, au lieu de donner une petite formule, au lieu de parler en termes d'action, au lieu de donner une formule positive, la personne dit prononce le prénom de son chien. On va prendre Roxy, là, on va regarder cet exemple-là. Donc, le chien tire, j'entends Roxy. Le chien met son nez par terre, j'entends Roxy. Le chien veut aller voir un autre chien, j'entends Roxy. Mais ça, c'est pas possible, c'est trop compliqué pour le chien. Vous pouvez pas vous adresser à lui en prononçant tout le temps son prénom. Le chien, il connaît son prénom, il sait qu'il s'appelle comme ça. Par contre, si vous voulez obtenir quelque chose de lui, donnez la bonne consigne. Si vous voulez que le chien laisse quelque chose, ben dites-lui tu laisses. Si vous voulez que le chien attende pour ne pas aller sur la route et ne pas donc déborder du trottoir, dites-lui tu attends ou on attend. Voilà, si vous voulez pas que le chien, que votre chien aille voir un autre chien pour X raison, on peut lui dire laisse tomber. Voilà, tu me suis, on fait un demi-tour, demi-tour, tu me suis, on part dans une autre direction, etc. Mais exprimez ce que vous voulez. Donc le prénom du chien peut être utilisé, mais on va mettre une consigne derrière. Ça peut faire par exemple « Roxy, tu laisses ». Voilà, on peut mettre une consigne derrière le prénom. Mais ce qui ne va pas, c'est d'utiliser le prénom seul. C'est pas le prénom seul qui peut donner une indication claire à votre chien de ce que vous voulez obtenir de lui. Son prénom, c'est juste son prénom, il le connaît. C'est comme si moi, vous voulez me demander quelque chose, je sais pas, vous voulez prendre un rendez-vous, puis vous me dites « Véronique ». Ouais, bah avec ça, je ne vais pas aller bien loin, hein, ça ne me donne pas d'informations. Effectivement, si vous m'appelez par mon prénom, c'est pour m'interpeller, donc ok, vous m'interpellez, et après, quoi ? C'est quoi la suite ? Voilà, j'espère que ce petit conseil va vous aider à mieux communiquer et à mieux vous adresser à votre chien, oui, c'est ça, à mieux vous adresser à votre chien pour que ce soit plus clair pour lui et que votre relation n'en soit que meilleure. Alors, comment le chien apprend ? Le chien apprend par association, parce que le chien ne parle pas le français. Le chien ne va pas comprendre ce que vous dites. Par contre, il va enregistrer les mots comme des signaux sonores, comme des consignes sonores qui vont être associées à des mouvements, des postures, des situations. Par exemple, le mot « assis » associé à la situation « assis », le mot « couché » associé à la position « couché », etc. Le mot « retour » pour l'action de revenir au rappel, etc. C'est donc toujours le même mot associer à la même situation, le même mouvement, la même posture. Mais donc, quand vous apprenez quelque chose de nouveau à votre chien, ne placez pas le mot tout de suite, ne mettez pas le mot tout de suite, n'énoncez pas le signal sonore tout de suite, parce que ça ne va pas être clair pour le chien puisqu'il ne le connaît pas. Donc, on va d'abord placer le chien dans le mouvement, dans la situation, dans la posture, et ensuite on va venir associer le mot, on va venir associer le code sonore, donc soit en même temps, soit tout de suite après. Par exemple, si votre chien est en position assise et que vous voulez lui apprendre le coucher, ben vous allez prendre votre gourmandise et puis vous allez la descendre vers le sol. Le chien va se mettre en position couchée. Une fois qu'il est couché, c'est là que vous placez le mot couché. Vous ne placez pas le mot couché avant qu'il soit couché puisqu'il ne connaît pas cette nouvelle posture et cette nouvelle consigne, la consigne qui y est associée. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Donc, je répète, votre chien est assis, vous prenez la gourmandise, vous lui mettez au niveau du nez, vous faites descendre le nez vers le bas pour qu'il suive la gourmandise et qu'il s'allonge, qu'il se mette en position couchée. Et seulement quand il est couché, vous venez associer le mot couché ou tout juste quand il est en train de finir le mouvement pour se mettre en position couchée, voilà, vous venez associer le mot couché. Mais ne le dites pas avant, ne lui dites pas coucher alors qu'il est assis et qu'il ne sait pas faire le coucher puisque vous êtes en train de lui apprendre. Voilà, donc ça s'appelle, c'est l'apprentissage par association. On peut aussi capturer le mouvement, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Hier, je vous ai parlé du mode d'apprentissage associatif. Voilà, comment apprend le chien, comment apprend le chiot. Le chiot apprend par association entre un mot et une situation. Je vous ai expliqué ça dans le petit direct d'hier. Il y a aussi une autre manière qui est la capture, c'est-à-dire capturer un moment, capturer une situation. Par exemple, le chien est dehors, il est en train de rentrer par la porte-fenêtre ou par la porte, et ça peut être l'occasion de poser le mot « tu rentres » et de le féliciter à ce moment-là. Dans la pratique du clicker aussi, du clicker training, on utilise aussi le clicker pour la capture du comportement. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant, la capture. Parfois, on a du mal à apprendre un mouvement à un chien parce que c'est compliqué pour lui, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'on a du mal à leurrer, des fois par rapport à sa morphologie, ou parce qu'il ne comprend pas bien ce qu'on lui explique. Voilà, ça peut être des fois compliqué de mettre en place un nouvel apprentissage avec le leurre. Le leurre, hein, c'est du guidage, hein, c'est pas un gros mot. Hein. Parfois, le leurre, c'est intéressant, mais il faut surtout savoir aussi le retirer et pas ne se servir que du leurre. Mais le leurre, c'est aussi intéressant comme mode d'apprentissage. Et donc, la capture peut être un moyen efficace et sans contrainte. Sans moment désagréable pour le chien qui serait dans l'incompréhension de ce qu'on lui demande. La capture, justement, ça peut être quelque chose de fluide, quelque chose de léger, qu'on peut voir aussi avec le clicker. Donc justement, c'est ce que je voulais vous dire, qu'on peut voir aussi avec l'apprentissage du clicker, comment bien utiliser son clicker et comment faire de la capture de comportement avec un clicker. Alors pour ça, je vous propose un stage de 2 jours, un atelier sur 2 jours au mois de juillet sur le clicker, comment bien travailler au clicker, comment bien s'en servir, le timing, etc. Vous pouvez retrouver les dates donc de ces 2 ateliers clicker du mois de juillet sur le calendrier de mon site internet. Donc je vous invite à aller sur mon site internet autourduchien.fr et de vous rendre à la rubrique calendrier. Alors, c'est quoi un bon jeu de chien? C'est quoi un bon jeu de chiot? C'est comment une belle partie de jeu? Comment doit se passer une partie de jeu correcte avec des chiens, avec des chiots? Je parle bien sûr de chiens bien socialisés ou de chiots bien socialisés. C'est comme ça que vous allez le voir aussi si ils sont bien codés, j'aime pas trop ce mot-là, enfin voilà, s'ils sont bien communicants, s'ils communiquent bien avec leurs congénères, vous allez pouvoir le voir justement à travers leur manière de jouer. Donc des chiens bien socialisés, des chiots bien socialisés, qui communiquent bien, qui savent bien s'exprimer et s'ajuster avec les congénères. Quand ils jouent, ça va être des parties de jeu en 2 temps. Donc, ils vont jouer, Ils vont jouer, puis après, ils vont se poser. Vous allez avoir un petit moment de pause, un petit moment où ils vont se figer. Puis ils vont rejouer et ils vont se poser. Voilà, ça va faire ça tout le temps. Et puis, voire même, les places dans le jeu peuvent être inversées. Vous pouvez avoir un qui court après l'autre, et puis après une petite pause, hop, ça change, et c'est l'autre qui court après l'autre. Ça change de poste, entre guillemets, dans l'équipe. Voilà, ça c'est une bonne partie de jeu, c'est une partie de jeu correcte. Si vous avez un chien qui joue sans s'arrêter, sans pause, qui joue, il joue, il s'énerve, d'abord il joue, il s'arrête pas, il se pose pas, et il peut aller jusqu'à l'énervement, justement, ça c'est pas correct, c'est pas une bonne manière de jouer. Donc là, il faut faire quelque chose, faites-vous accompagner par un comportementaliste et voir comment vous pouvez améliorer cette communication et améliorer donc la manière de votre chien ou de votre chiot de jouer afin qu'il joue, qu'il apprenne à jouer de manière correcte avec ses congénères. Et c'est vraiment avec cette notion de mouvement, pause. Bonjour. Alors aujourd'hui, il fait encore très très chaud, surtout quand vous venez en cours, venez avec votre bouteille d'eau. Venez avec votre bouteille d'eau pour faire le cours avec moi, ou quand vous allez vous promener, que vous allez promener vos chiens, venez avec votre bouteille d'eau. Merci. Alors, ce soir, un petit conseil sur le rappel. C'est quoi pour moi un rappel réussi ? C'est un rappel où votre chien revient d'une seule traite et sans interruption. Voilà ce que j'appelle un rappel réussi. Le chien revient d'une seule traite vers vous et sans interruption. C'est ce qu'on voit dans mon atelier sur le rappel. Alors je le propose sous deux formes, soit en présentiel ici à Bernay, soit en distanciel sous forme de webclass, sous forme de webinaire. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le calendrier de mon site. Donc mon site internet, c'est autourduchien.fr. Merci.
Je m'appelle Véronique Valli. Je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance.
Quand j'accompagne des personnes et leurs chiots, on me demande souvent « j'aimerais que mon chiot il arrête de faire des bêtises ». Alors déjà, ce ne sont pas des bêtises, ce sont des destructions, effectivement, ce sont des désagréments. Je suis d'accord que ça peut être des choses qui nous dérangent, on est bien d'accord, mais ce ne sont pas des bêtises. Votre chiot est tout petit, il explore, il s'occupe. Alors déjà, quoi faire ? Mettre toutes les choses fragiles ou dangereuses en hauteur, comme on le ferait avec un petit enfant ? Et puis ensuite, s'assurer de plusieurs choses. Est-ce que votre chiot dort assez ? Est-ce qu'il est suffisamment reposé ? Ou est-ce qu'il est plutôt énervé et que du coup, il s'agace, il s'énerve et il touche à tout ? Est-ce que votre chiot est suffisamment stimulé, occupé ? Alors pas trop, attention, c'est un chiot, mais à voir aussi s'il ne s'ennuie pas. Parce que s'il s'ennuie, après, si vous êtes parti toute la journée aussi, c'est clair qu'il ne peut pas rester comme une potiche à se tenir tranquille et à rien faire chez vous. Hein. Ça aussi, c'est des choses qui se réfléchissent et qui s'organisent. Donc, est-ce qu'il est suffisamment promené ? Bien sûr, des promenades en fonction de son âge. Est-ce qu'il est suffisamment stimulé ? Est-ce qu'il a des jeux ? Est-ce qu'il a des jeux adaptés à son âge ? Est-ce qu'il a du contact social, donc contact avec les congénères ? Voilà, est-ce que ses besoins sont comblés ? Est-ce qu'il est suffisamment stimulé, adapté à son âge, est-ce qu'il est aussi suffisamment reposé ? Voilà, il y a tout un tas de questions auxquelles il faut se référer, des questions à se poser et réfléchir pourquoi notre chiot fait des destructions. Est-ce qu'effectivement j'ai rien rangé, tout est en bazar, tout est à la portée du chien, et puis il n'a rien à lui peut-être. Peut-être qu'il n'a pas de jouets, qu'il n'a pas de choses à mastiquer. Voilà, il faut vraiment faire le tour de la situation. Si c'est un petit peu compliqué pour vous, en cela, je peux vous aider. On peut faire un bilan ensemble, de la situation, voir si tout est correct dans la vie que vous proposez aujourd'hui avec votre chiot qui vient d'arriver à la maison ou qui est arrivé sous peu. Donc, vous pouvez me contacter. Mon site, c'est autourduchien.fr. Sinon, vous me trouvez aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez mes coordonnées. Voilà, et si vous avez besoin, je peux vous aider à faire un petit bilan de la situation et voir si tout est correct au niveau du vivre ensemble avec votre chiot. L'autre jour, un monsieur m'a téléphoné pour l'éducation de son chiot, un chiot de 3 mois de race moyenne. Il souhaite le mettre en contact avec d'autres chiens, d'autres chiots pour le côté socialisation. Jusque-là, tout est nickel, c'est parfait. Je lui propose aussi des cours individuels. Et là, il me dit que non, que c'est pas la peine, qu'il sait faire, que c'est pas son premier chien. Ok. Bon, peut-être qu'il sait faire effectivement, peut-être qu'il a déjà mis en place de manière très efficace des apprentissages qui fonctionnent, qui vont être solides, pourquoi pas. Je ne connais pas les compétences de ce monsieur, mais très souvent quand même dans l'ensemble, quand je vois les gens après, il y a quand même des choses à revoir, il y a quand même des choses à corriger, il y a quand même des choses à améliorer et à modifier. Par exemple, si moi je souhaite faire des abdominaux, moi je vais aussi dire que je sais faire des abdominaux, hein, je vais me mettre par terre, je vais faire des croches, voilà, je sais faire des abdominaux, mais comme c'est pas mon job, il est possible aussi que je les fasse pas très bien, que je me fasse mal au dos, et puis que mes abdominaux, eh bien, ne prennent pas, que les muscles ne prennent pas, qu'au bout de plusieurs semaines, ben, ça prend toujours pas, je me muscle pas, il se passe rien, il n'y a pas de résultat. Voilà, donc je pensais que je savais faire. Mais finalement, il y a des subtilités, vraiment, des subtilités qu'il faut connaître. Et ça, c'est du domaine du professionnel. Donc, je vais aller voir un coach sportif. Voilà, donc pour l'éducation du chiot, c'est pareil. Il y a des subtilités aussi qu'il faut connaître, hein, des choses à savoir mettre en place comme il faut. Il y a des notions de timing, il y a des notions de mettre la récompense au bon moment, l'encouragement, les répétitions, comment on les fait, etc. Dans quelles conditions, dans quelles situations, pour être dans des conditions de réussite, etc. Il y a tout un tas de choses qui font que ça va fonctionner de manière efficace et que ça va être durable dans le temps. Voilà. C'est en cela où je peux vous accompagner parce que mes connaissances et mes compétences vont vous aider dans l'éducation de votre chien, de votre chiot, et qu'on peut améliorer les choses que vous savez faire déjà effectivement tout seul. Bonjour, et j'espère que vous allez bien. Alors depuis quelques jours dans le monde canin, et depuis quelques jours, mais aussi depuis plusieurs années, voire quelques décennies, mais surtout là depuis quelques jours, il y a encore une émulation contre une certaine personne qui est maltraitante dans sa pratique de l'éducation canine, qui est maltraitante, qui est violente, et avec des vidéos qui peuvent être vues voilà, sur différents supports, et qui sont violentes, qui sont maltraitantes, et enfin c'est juste inadmissible quoi. Comment on peut pratiquer ce métier dans de telles conditions et en faisant autant de mal aux animaux. Enfin c'est juste incroyable. Enfin c'est juste incroyable d'un manque de connaissances aussi entre autres. Bref. Et lors d'une discussion sur un réseau social, une personne lambda disait « Oui, mais comment reconnaître un bon éducateur d'un moins bon ?» Parce que quand même, cette personne, elle a du résultat. Alors, avoir du résultat n'est pas synonyme d'une belle réussite. Avoir du résultat n'est pas synonyme de bien-traitance. Avoir du résultat ne veut pas dire que la personne travaille bien, que la personne est à jour de ses connaissances et que la personne travaille avec le respect nécessaire pour le chien et sa famille. Voilà. À une époque, quand même, les geôliers aussi avaient du résultat. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Et puis aujourd'hui encore, toute personne très autoritaire peut avoir du résultat, peut avoir l'ascendant sur une autre personne et peut avoir du résultat. Donc avoir du résultat n'est pas une référence de qualité. N'est pas une référence de qualité. Voilà, on peut avoir du résultat en étant respectueux et bienveillant. Et ça, c'est parfait. En étant à jour de ses connaissances et en accompagnant très bien la famille et en respectant le chien, mais on peut aussi avoir du résultat en étant maltraitant. Donc voilà, c'est pas simplement le fait du résultat qui doit vous donner comme indication qu'un éducateur canin professionnel est bon ou moins bon. Voilà, j'espère que cette petite réponse va pouvoir vous aider pour les personnes qui ne sont pas encore accompagnées favorablement, que cette réponse va pouvoir vous aider à faire le choix d'un bon comportementaliste ou d'un bon éducateur canin à jour de ses connaissances, bien traitant et respectueux, et qui pourrait vous accompagner.
Vous pouvez retrouver des infos dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée, et je vous invite à partager cet épisode s'il vous a plu. à encourager mon podcast en vous abonnant. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient aussi en bénéficier. Merci et à bientôt !